Gloire à Dieu. Eh bien, nous sommes toujours à l'étude du livre des Actes. Et nous sommes en passe de terminer seulement le chapitre 2. Hein? Je vous avais dit, il n'y a pas lieu d'être pressé avec un livre si important. Il n'y a pas lieu d'être pressé avec un livre si important, même si vous avez peut-être déjà entendu beaucoup d'enseignements sur le livre des Actes. On s'apprête, par la grâce de Dieu, à terminer le chapitre 2. Vous vous rappelez, peut-être, on était rendu au verset 40. Et c'est après avoir lu le verset 40 que je m'étais arrêté lorsque l'heure réglementaire était arrivée. Je vous avais dit que je n'oublierai pas qu'on a terminé seulement le verset 40. Je vous disais que je ne veux pas commencer le verset 41 parce que si je le commence, je vais courir avec. Je préférais m'arrêter pour laisser la place à des bien-aimés de la congrégation qui avaient peut-être des questions à poser. Il est vrai, il n'y a pas eu de questions, mais c'est ce que nous avions fait. Alors oui, nous sommes mûrs pour entamer le verset 41 à continuer. Le verset 41 a continué. Là, il y a beaucoup de fois. Vous avez visité ces versets avec moi au cours des prédications et même des temps d'études bibliques quand il y a des enseignements que je passais dans la congrégation qui exigeaient que je visite ce passage avec vous. Ce qui fait que j'espère terminer 41 à 47 aujourd'hui parce que ce sont des passages auxquels et des versets auxquels nous sommes très familiers. Alors, nous sommes à Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Nous les avions lus mercredi dernier. Nous ne les lirons pas nécessairement, sauf quand on va les décortiquer un à la fois. Au verset 40, et à Docteur Luc, qui nous fait ce compte rendu, nous dit encore, et par plusieurs autres paroles, il, en l'occurrence, hein, l'apôtre Pierre, les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Tout cela a été expliqué et en détail, cette génération perverse. Et alors, au verset 41, nous voyons la réaction des gens au discours de Pierre en général et particulièrement aux demandes explicite qu'il a adressé à ces gens-là. Et les gens ont accepté la parole. Et ils ont accepté la parole que Pierre a prêchée. Ils ont accepté la parole que Pierre a enseignée sur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, le don de l'Esprit qui vient avec lui, ils ont accepté les conditions imposées par Pierre. Hein? Et quelles conditions? Au verset 38, Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Pour le don du Saint-Esprit. Alors, Et c'est la condition posée par Pierre pour se sauver de cette génération perverse. C'est la condition posée par Pierre pour venir au Seigneur, pour être accepté, être pardonné par le Seigneur. C'est se donner à lui et recevoir le baptême public comme geste public, comme preuve publique, comme témoignage public que on l'accepte comme sauveur, comme le Messie d'Israël, comme le sauveur du monde. Eh bien, ils l'ont fait. La lumière du verset 41, nous comprenons qu'ils l'ont fait, car la Bible dit, ils acceptèrent la parole et ils furent baptisés. Alors, ils l'ont fait. Ils ont entré dans les conditions fixées par Pierre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils ont accepté la parole de Pierre et ils se furent baptisés. Et la parole de Dieu de rajouter qu'en ce jour-là, Actes chapitre 2, verset 41, qu'en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 membres, 3 000 âmes. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Et au verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Jean refait là. C'est-à-dire que, ou libibou, hein, ou libibou poukotou, ou libibou azamiou, ça qui voulait, ou libibou amadamou, ou libibou apititou, ou commenteli, hein, ou méditeli, il y a, ou enseigneli, dans la mesure du possible, ou mémoriser-li, ou appliquer-li, ou écouter parole-là, ou tenter parole-là, chaque fois que l'occasion s'y prête, et puis que vous avez la possibilité de le faire, eh bien voilà ce qu'on appelle persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est la parole, c'est la parole des apôtres. La parole des apôtres. Et les apôtres reçoivent la parole de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Et les apôtres expliquent cette parole, ils enseignent la parole. Ils encouragent les gens à obéir à la parole. Eh bien, il se trouvait que ces gens-là, qui ont accepté Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, et de se faire baptiser, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Hein? Ils ont compris quelque chose que l'apôtre Pierre va dire plus tard, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, c'est-à-dire la parole de Dieu, je l'ai déjà enseigné, ce passage, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Regardez verset ça avec vous, l'homme d'habitude de la maturité spirituelle. Hein? Alors, ils ont compris l'importance de la parole pour la croissance spirituelle, pour la croissance de la vie chrétienne, hein, pour la croissance en maturité. Ils ont compris, hein, ils l'ont fait, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Pierre va dire plus tard, et Paul va dire plus tard, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Eh bien, ces gens-là, en persévérant dans l'enseignement des apôtres, eh bien, ils cherchaient, hein, ils cherchaient à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein, ils cherchaient à discerner quelle est la volonté du Seigneur. Mais pour faire cela, c'est dans la parole, c'est en persévérant dans la parole du Seigneur. Et ils avaient compris l'importance de la parole. Nous avons tous ces passages de l'Écriture qui sont là pour nous rappeler l'importance de la parole dans la vie chrétienne, dans la croissance chrétienne, en zèle, en maturité, en dévouement, en foi, en sagesse, en humilité, en amour. Et les versets qui nous montrent l'importance de la parole, c'est normal. Hein? Les mots qui sont utilisés pour qualifier la parole, lait spirituel, nourriture spirituelle, hein? et nous montre l'importance de la parole, de la croissance. On en a beaucoup parlé. Et ces gens-là, ils l'ont fait. Ils étaient des nouveaux convertis, mais ils arrivaient sur un terrain où ils voyaient comment les autres dansaient, comment les autres persévéraient déjà dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. Alors eux aussi, hein, ils ont suivi la cadence. Gloire à Dieu. Hein. Les lettres de l'apôtre Paul au pasteur Timothée, au pasteur Tite, ne laissent aucun doute sur la priorité que Dieu accorde à la parole, à la prédication de la parole, eh bien, pour la croissance spirituelle des gens. Paul dira au pasteur Timothée, 1 Timothée 4, verset 6, en exposant ces choses aux frères, c'est-à-dire ces vérités, ces enseignements, ces paroles, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles, voyez-vous, nourri, hein, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Hein? Et alors, la parole de Dieu est très claire sur l'importance. Déclare ces choses, dira Saint Paul à Timothée. Enseigne-les. Hein? Déclare ces choses. Enseigne-les. Ces choses, c'est encore ces vérités, ces paroles, ces enseignements. Gloire à notre Dieu. Timothée 4, verset 11. Et il dira, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Gloire à Dieu. Donc, nous ne manquons pas de références prouvant que la parole, hein, est centrale ou doit être centrale, est appelée à être centrale dans la vie du disciple. Alors, pourquoi j'en parle autant? Mais c'est parce que le texte nous dit que ces gens qui acceptaient la parole et qui se furent baptisés persévéraient dans l'enseignement des apôtres. J'essaie de vous montrer que ces gens-là étaient en phase avec la volonté du Seigneur, la volonté apostolique, eh bien, et sur ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire de la parole de Dieu, frères et sœurs, mais bien-aimés en Christ. Hein, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et aussi ils persévéraient dans la communion fraternelle. Hein, je vais nous faire là et à la communion fraternelle. Hein, très important. Persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quand nous réunissons ensemble pour rire, pour fêter, pour prier, pour pleurer, hein, pour réfléchir, pour décider, pour apprécier, pour s'apprécier, pour s'exhorter. Voilà ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est comme, cum, avec, union. Communion fraternelle, c'est communier avec. C'est unir avec. Et puis fraternelle, c'est frère. Hein? Unir avec, littéralement. Littéralement. C'est ça que ça veut dire, unir avec. Comme, union. Unir avec. Et puis fraternelle, c'est frère. Donc, toutes les fois que des frères sont ensemble, ils sont en communion fraternelle. Toutes les fois que des frères et sœurs sont ensemble, ils sont en communion fraternelle. Donc, communion fraternelle, il y en a bagaille que nous sommes appelés à faire, les transversales. Les n'a pris ensemble en communion fraternelle. Les n'a enseigné, les n'a loué, n'a pas adoré ensemble, nous en communion fraternelle. Les transversales. Dans cinq grandes bagailles que, dans cinq grandes bagailles que Dieu nous appelle à faire, communion fraternelle, service, évangélisation, enseignement, communion fraternelle, c'est ça qui est plus transversal. Parce que chaque fois, l'autre y a fait, communion fraternelle, là, il a en filigrane, il a en soubassement. Voilà. Voilà. Eh bien. Très bien. Et lorsque nous nous exhortons aussi à la consécration, à la sainteté, à la fidélité envers Dieu, nous sommes en communion fraternelle aussi. Et j'ai dit que la communion fraternelle signifie communier avec, mais nous avons dit son partenariat aussi. Hein? Communion fraternelle signifie partenariat ou bien partage aussi. Hein? Ceux qui acceptent Christ et qui se font baptiser en Christ, hein, eh bien, sont devenus des partenaires du Christ. Ils sont devenus des partenaires du Christ. Et parce qu'ils sont devenus des partenaires du Christ, ils sont devenus partenaires les uns des autres. Hein, pas oublier ça. Et nous sommes partenaires les uns des autres, et cela pour l'éternité. Le vrai partenariat entre nous, la vraie communion entre nous va se passer dans l'éternité. Elle est permanente, elle est éternelle, parce que nous partageons ensemble la vie éternelle. Notre communion s'inscrit, s'incruste dans notre vie éternelle que nous avons reçue du Seigneur. Dans notre vie éternelle que nous avons reçue du Seigneur. Il y a toujours de la joie associée à la communion fraternelle. Dès que des chrétiens sont ensemble, c'est pour devenir meilleurs et non pires qu'ils s'assemblent. C'est pour se réjouir. Hein? Hein? Et voilà pourquoi lorsque nous négligeons la communion fraternelle, eh bien, il arrive que nous perdons la joie du salut. Nous perdons la joie du salut lorsque nous négligeons, ou peut-être même lorsque nous méprisons la communion fraternelle. Alors, prions que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas négliger la communion fraternelle. En tout cas, ces bien-aimés-là, eux, ils l'ont compris. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, hein, en veillant les uns sur les autres, en s'excitant les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, hein, en n'abandonnant pas leur assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, en s'exhortant réciproquement, hein. Alors, voilà une vie de communion fraternelle. Il ne persévérait pas seulement dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, mais aussi il persévérait dans la fraction du pain. Quand j'étudiais cela avec vous, je vous disais que la fraction du pain, c'est la Sainte Cène. Voilà, c'est tout. La fraction du pain, c'est la Sainte Cène. N'oublions pas cela. Hein? La célébration de la Sainte Cène, la célébration du repas du Seigneur, eh bien, c'est un élément de la vie chrétienne, un élément clé, un élément important de la vie chrétienne. Hein? C'est un élément clé, un élément essentiel de la vie chrétienne. Dès la naissance de l'Église, dès l'aube de l'Église, on voit des bien-aimés persévérer dans la fraction du pain, dans l'administration, dans la célébration, hein? Dans la fête, dans la communion de la Sainte Cène, au même titre qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Chaque gain a lieu dans la vie chrétienne. Et c'est l'étape ultime de la communion. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que dès que nous sommes ensemble, c'est pour communion, c'est pour la communion, c'est pour communier qu'on est ensemble. Mais c'est vraiment l'étape ultime, l'étape visible de la communion, l'étape visible ultime de la communion, la Sainte Cène. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a commandé, hein, à tous ses enfants de pratiquer la Sainte Cène. C'est pas rien, la Sainte Cène. C'est pas un jeu, la Sainte Cène. C'est à la compte des témoignages concernant la puissance de la Sainte Cène. Vous avez peut-être difficulté. Pourquoi? La puissance de la Sainte Cène. Ti mò so pen sa ou ap pon met nan bouchwa. Ti ve du vin sa ou ap pon met nan bouchwa. Ti patan pou lò pon ve du vin la kay ou. Ou bon pon mò so pen met nan bouchwa. Son lòt bagay. Son lòt bagay. Se sakre, se archi sakre. E bzwen son lè ki se gen dè moun la dan.
Ils ont exilé trois moun là-dedans, quatre moun là-dedans, cinq moun là-dedans. L'on prend qu'un bémol sous pinceau en main. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous n'avons pas la même vision de la Sainte-Seine que le catholicisme romain. Mais, en pile fois, ils prennent Sainte-Seine plus au sérieux que moi avant. Et ils ont l'impuissance qu'il y a dans Sainte-Seine plus que moi avant. Ils ont quoi là-dedans? Tout proche. Mais quant à puissance, ils ont la puissance que moi avant. Ce n'est pas un jeu. Ouais, Diakio qui a passé Sainte-Seine. Ces hommes et ces femmes qui ont passé Sainte-Seine. C'est à respecter. Ils ont même mieux de respecter ça. Et mon y a observé, il doit respecter ça. Parce que la parole de Dieu dit, ça a passé à lui symboliser le corps du Christ. Soit mettez dans la bouche, symboliser le corps du Christ. Il n'est pas le corps du Christ, il symbolise le corps du Christ. Symbole, dans la chrétienté, dans la religion en général, mais dans la chrétienté, symbole, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que symbole n'a pas réalité à quel point rien. Ah là là. Et lorsque nous voulons, lorsqu'on a toussé, est-ce qu'on a fait mes micros, s'il te plaît? Lorsque vous voulez tousser ce qui est tout à fait légitime pour santé physique, est-ce que vous voulez faire mes micros et pour tousser où? Ce qui est tout à fait normal. Et puis après, on l'ouvre, s'il te plaît. Ça a pris des noms en pile. Ça a pris des l'église en pile. Nous, avec ou non, nous avons besoin de tout ça. Nous gagnons tout à l'occasion. Fais même une cour, tout c'est où? Dans la grâce du Seigneur, Père Provini, s'il te plaît. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Et j'en connais un. Hein? Il persévérait dans les prières. Et puis, comprenez bien. Comprenez bien. Bon Dieu qui fait là. Il persévérait dans les prières. Il pas dit la prière, il dit les prières. Ah, les prières supposent ici toutes sortes de prières. Je nous fait là, nous fait pétition, nous fait confession, nous fait intercession, etc. Toutes sortes de prières. Mais il y avait des différentes heures de prière, des différents moments de prière. Ah, aussi, il y avait des différents moments de prière. Là, ça fait aussi dans les prières. Gloire à notre Dieu. Et les prières sont les prières de chaque croyant. Et les prières de l'Église tout entière. Il persévérait là-dedans. Hein? Vous et moi, nous prions beaucoup. Et nous demandons, nous allons continuer à demander à Dieu, hein, de nous faire la grâce de continuer de persévérer dans les prières. Une église qui prie, c'est une église puissante. Une église qui prie, c'est une église bénie. Une famille qui prie, c'est une famille bénie. En dépit des hauts et des bas de la vie, la persévérance dans la prière est fondamentale pour la vie chrétienne. On en a parlé beaucoup. Quand je parlais de la maturité spirituelle, ça ne prend pas seulement la parole comme pilier. La prière, c'est un pilier aussi. La Bible, la parole de Dieu est un pilier de la vie chrétienne. La communion fraternelle est un pilier de la vie chrétienne. Mais également, la prière, c'est un pilier de la vie chrétienne. Il y a pour une église qui persévérait dans la parole, une église qui persévérait dans la communion fraternelle, pour une église qui persévérait dans la fraction du pain et dans la prière, c'est sans surprise qu'au verset 43, la parole de Dieu dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. C'est sans surprise. C'est sans surprise. Hein? La crainte s'emparait de chacun, de chaque membre de l'Église là. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Hein? Le mot crainte ici traduit une révérence, un respect envers Dieu. Hein? C'est ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la révérence envers Dieu. C'est le respect envers Dieu. C'est accorder à Dieu la priorité ultime. C'est prendre Dieu pour ce qu'il est. Faire de Dieu ce qu'il est. Servir Dieu pour ce qu'il est. Servir Dieu pour ce qu'il est. Hein? C'est la crainte de Dieu, c'est un sentiment qu'on éprouve. Hein? Lorsqu'on se rend compte que Dieu est ce qu'il est, hein? La crainte de Dieu, c'est un sentiment profond qu'on éprouve du très fond de notre âme lorsque nous réalisons qui est Dieu par ce qu'il est, par ce qu'il a fait et comment il est près de nous. Et puis, la crainte s'empare de nous. On dit, ah, mon Dieu, ça, il est adorable. Mon Dieu, ça, il est respectable. Il est digne d'honneur. Il est digne de mon adoration. Il est digne de mon respect. Il est digne de mon service. Juste penser à la création de Dieu. Et puis, ça remplit nous de crainte de Dieu. Juste penser à l'amour de Dieu qui a donné son Fils pour notre salut, notre vie éternelle au calvaire. Et cela nous remplira de crainte. La crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est Dieu qui n'est pas négociable. Hein? Quand on craint Dieu dans ce sens-là, ben Dieu n'est pas négociable. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Hein? L'Église primitive inspire la crainte, le respect pour Dieu. Hein? Parce que dans cette Église, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Le livre des Actes est rempli de miracles. Déjà au chapitre 3, le chapitre 3 va débuter par un miracle. Hein? Et on en aura d'autres au chapitre 5, et ainsi de suite. Le livre des Actes, pour des raisons assez faciles à comprendre, le livre des Actes est ponctué de miracles. C'est pour ça, docteur Luc dit là, eh bien, parce que l'Église a campé sous la parole, il campait sous la prière, il campait sous la communion, il campait sous la Sainte-Seine, il campait, c'est-à-dire dans les disciplines spirituelles que Dieu a prévues pour cette Église, qui se faisait beaucoup de miracles, mais en général, il y a le livre des Actes est rempli de miracles, frères et sœurs, pour des raisons qu'on aura le temps de redire, parce que j'en ai déjà parlé à d'autres occasions. Pourquoi ce livre est rempli de miracles? Mais par sa situation même, par ce qu'il raconte, par ce que ce livre raconte. Hein? Il est rempli de miracles. On aura l'occasion de regarder cela. Maintenant, nous sommes au verset 44. Donc, n'oubliez pas, je relis ce qu'on a vu, ceux qui acceptèrent sa pierre. Pierre, verset 40 d'abord, par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Au verset 41, je vous ai fait remarquer qu'ils ont accepté les conditions de Pierre. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la parole pour se sauver de la génération perverse et de la génération incrédule. Eh bien, ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, comme Messie d'Israël. Et aussi, ils ont accepté de témoigner publiquement leur acceptation du Seigneur en acceptant de se faire baptiser. Et ayant fait cela, eh bien, il fait ce que les apôtres les amenaient à faire, ce qu'ils voyaient que les apôtres faisaient avant même la naissance de l'Église, à savoir persévérer dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain et dans les prières. Et la Bible dit au verset 43 que la crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres, donc parmi eux, par les saints apôtres du Seigneur. Et au verset 4, maintenant, Actes chapitre 2, il est écrit, au verset 44, Actes chapitre 2, il est écrit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors voilà, au début de l'Église, ceux qui croient sont dans le même lieu. Hein? Et, ils jouissaient d'une communion spirituelle, et ils jouissaient aussi d'une communion pratique. C'est ce que ça veut dire. Hein? Et cela ne veut pas dire que le fait qu'ils avaient tout en commun ne signifie pas que ils avaient une bouteille d'eau tout le monde ensemble. C'est pas ce que ça veut dire. Et ils avaient tout en commun, ça veut dire qu'ils étaient unis de cœur. Et les besoins de l'un étaient les besoins de l'autre. On s'associait ensemble pour répondre aux besoins d'un autre. Voilà ce que ça veut dire, ils avaient tout en commun. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient nécessairement une maison en commun, une voiture en commun, ou que, évidemment, il n'y avait pas de voiture, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est plutôt que dans tête par moi, ça me gagne, c'est pour faire bien. Ainsi, selon les besoins des personnes des églises, on pouvait, eh bien, donner notre contribution, notre quote-part pour répondre à un besoin et de ce que les autres avaient. Et c'est le sens de ils avaient tout en commun. OK? Alors, ils vendaient leur propriété, verset 25. Voilà, ça me fait sauter le chocolat. Ils vendaient leur propriété et leurs biens et ils en partageaient, voyez-vous. C'est ça que ça veut dire, ils avaient tout en commun. Et ils partageaient le produit entre tous, selon, en plus, selon le besoin de chacun. En sorte que si quelqu'un n'avait pas besoin, mais il n'avait pas d'affaire à l'ordinateur de l'autre, à la télévision de l'autre, à la maison de l'autre, au champ de l'autre. S'il y avait un besoin, on pouvait répondre à ses besoins. On joignait les mains ensemble pour répondre à un besoin. Il s'agissait pas d'un communiste, là. Il s'agissait pas d'un communiste. Ils avaient tout en commun, ne s'y vu pas du communisme. Hein? C'était une disposition à répondre aux besoins des autres à partir de ce que moi j'avais. En ce sens, nous avions tout en commun. Dans tête, pas moi, ça me vient, c'est pour faire oublier. Mais ce n'est pas nécessairement tout le monde a vu dans plus de non-cailles, tout le monde, il y en a par-dessus l'autre. Non, Dieu ne l'envoie pas comme ça d'ailleurs. C'est parce que Dieu dit d'ailleurs. OK? Donc, il y avait des familles séparées, des maisons séparées, il y avait des domaines, il y avait des propriétés privées, et ça pouvait, voyez-vous, il n'y avait pas, ils ont entremêlé là. Ce n'est pas affaire de entremêlé là. Il y en a par-dessus l'autre et puis tout le monde. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et il y a ce genre de communion-là. C'est plutôt une disposition à répondre aux besoins des autres selon leurs besoins, et à soutenir les autres selon leurs besoins. Ce n'était pas le communisme, autrement dit. Très, très important de comprendre cela. Et cette pratique a existé avant même la naissance de l'Église. Hein? La pratique d'avoir tout en commun en ce sens, l'idée de soutenir ceux qui étaient dans le besoin dans la fraternité chrétienne ou dans la fraternité religieuse, eh bien, c'est quelque chose, c'est une tradition qui remonte à avant même la naissance de l'Église. Israël pratiquait ce genre, eh bien, de communauté et à frères et sœurs. Et les gens pouvaient ouvrir et à partager leurs ressources à ceux qui étaient dans le besoin et à frères et sœurs. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Hein? Ils étaient ensemble Tous, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. À la lumière de ce verset, on comprend que le partage était un partage de biens matériels, certainement, mais c'était aussi un partage de ministère, un partage de biens spirituels. Dans la mesure où chaque jour, ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Alors, ils vont au temple pour les heures de prière. On en a parlé tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure, et on en parlera encore, bientôt si Dieu veut. Hein? Ils étaient là pour témoigner. Hein? Ils communiaient donc. La communion fraternelle avait, on en a parlé, la forme spirituelle et la forme matérielle. Je vous l'ai dit, la communion fraternelle revêt une forme matérielle et une forme spirituelle. On partage les exhortations, on partage les témoignages. On partage les prodiges, les miracles que Dieu opère, on partage la parole de Dieu, mais aussi on partage les biens matériels que Dieu nous fait ensemble. Et c'était tous ensemble, communauté, communion, ensemble, pas chacun dans son coin. Ils étaient tous ensemble dans le temple. Pourquoi le temple? Mais parce que le temple, c'était l'endroit qu'ils avaient pour se rassembler. Ils pouvaient entrer dans le temple. Non pas dans la perspective judaïque, mais dans la perspective chrétienne, parce que c'était le lieu. Le Seigneur lui-même leur a donné l'exemple. Depuis qu'il était tout jeune, il allait prier dans le temple. Et le temple, la chrétienté utilisait encore le temple pour, eh bien, faire, pour l'adoration du Seigneur, pour la prière. Et très important de comprendre cela. Frères et sœurs, mais bien aimés, ils utilisent le temple parce que ils étaient là quand le Christ est entré dans le temple. Il a revendiqué le temple comme étant une maison de prière. On s'en rappelle. Les gens en faisaient une caverne de voleurs, mais lui, il savait, lui, le Seigneur savait, par sa connaissance théologique de l'histoire de son peuple, de la révélation de Dieu, il savait que le temple devait servir de maison de prière. Et alors, il ne se gêne pas d'aller prier dans le temple après l'ascension du Christ à la naissance de l'Église. Il n'y avait aucun mal à le faire. Et frères et sœurs, ils vont continuer à se réunir dans le temple jusqu'à ce que le temple soit détruit en l'an 70. Là, à côté de nous, il y a la Nouveau. Il y a privé comme ça en l'an 70. Mais nous, beaucoup en l'an 70, non? Jésus-Christ fait monter, oui, là. La Pentecôte fait lieu, oui, là. Hein? Mais voilà, il va aller dans le temple pendant 70 ans comme ça, hein? Jusqu'à ce que le temple en détruit, il continue à avoir le prier dans le temple, dans les maisons, souvent, bien sûr, dans des églises que, dans des, oui, dans des églises aussi, dans des temples que eux-mêmes vont le faire, mais dans le temple de Jérusalem lui-même, ils vont continuer à adorer, à prier Dieu là-dedans. Et aussi, l'apôtre Paul va rentrer dans le temple là, aussi, pour lui contrecarrer ses adversaires et à spirituel, il va discuter, il va revenir aux histoires. Ils vont en relation intime avec Temple. Temple n'a pas la même signification dans Dieu que les judaïsants. Voyez-vous? Alors, bien important de comprendre cela, frères et sœurs. Nous sommes toujours au verset 46, Actes chapitre 2. Ils étaient chacun tous ensemble assidus au temple. Ah! Ils rompaient le pain dans les maisons. Gloire à notre Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons. Oh, vous rompez le pain au 48-63 de la rue Cartier. Mais ils rompaient le pain dans les maisons. Il n'y avait pas autant de confort que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions pas encore. Donc, ils profitaient de leur rassemblement dans les maisons. Ils mangeaient dans les maisons ensemble. Ils fêtaient dans les maisons. Ils priaient dans les maisons ensemble. Ils adoraient dans les maisons. Parfois dans les maisons, parfois dans les temples. On en a parlé tout à l'heure, mais en même temps, ils rompaient ensemble le pain dans les maisons. Et apparemment, rompre le pain dans la maison avait une double dimension. Il y avait la dimension sacrée, la dimension spirituelle, Mais il me semble aussi qu'il y avait la dimension juste de communion fraternelle, juste de manger ensemble. J'en ai fait lire l'autre jour là, un groupe d'hommes, non? Et les femmes, les sœurs de l'Église nous ont donné à manger aux hommes, les hommes ont donné à manger aux femmes. Il semble aussi qu'il y a, il y avait comme une sorte de continuité dans le fait de manger ensemble par rapport à la Sainte Seine elle-même. Et voyez-vous, ou bien repas à vite tourner, ils ont fini pour la Sainte Seine ensemble, manger ensemble, ou ils ont fini manger ensemble pour la Sainte Seine ensemble. Il semblait qu'il y ait une continuité dans ce genre de communion, dans ce genre de repas. Parfois, rompre le pain, il à la fois signifie la Sainte Seine, le repas du Seigneur, ou d'autres fois, il semblait interchangeable avec le fait, juste le fait de manger ensemble. On connaît dans la culture ça, pain est très présent sous table, un peu tant qu'aujourd'hui, hein, et ça fait parfois un simple repas entre amis qui est désigné comme étant le fait de rompre le pain. Et voyez-vous, alors, voilà, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, en les recevant, hein, ses frères, ses sœurs, pour manger ensemble, pour rompre le pain ensemble, était un élément de leur communion fraternelle, de leur vie ensemble. Et donc, il est bien important de comprendre cela, frères et sœurs, mais bien-aimés en Christ. Et à verset 47, et la parole de Dieu dit, louant Dieu. Alors, attends, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Donc ça, c'est réglé. Et simplicité de cœur. Donc la joie, oui. Là où des frères et sœurs sont rassemblés, mais la joie abonde. La joie est palpable. Et verset 7, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La joie leur vient aussi en louant le Seigneur. Il y a la joie de la communion fraternelle, les uns avec les autres, hein, le rire, les blagues, ou l'Église à gauche, c'est ça la Bible parler là. C'est pas jodi al comme ça. Pour arrêter sous peu, on le disait là, ouais, non, pas qu'à aller. Et même bagaille là. C'est là qu'on va parler ensemble. Depuis des petits bon Dieu retrouvés ensemble, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Depuis des petits bon Dieu retrouvés ensemble, là, côté gain, l'amour, la joie, la communion, l'unité, même vous ne pas qu'à séparer, puis vous avez toujours senti au bien. En plus, il faut sentir tout arrêter l'église là pour plus longtemps. On doit rentrer la caillou. C'est l'île que tu as parlé là. Donc, ce n'est pas jodi al comme ça. Ce n'est pas pour vous seulement comme ça. Et c'est normal pour le constat. Soit elle pas comme ça, bon problème. Bon gros problème dans l'église là. Soit elle pas comme ça. Bon gros problème. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Gloire à Dieu. Voilà la volonté du Seigneur pour l'église. Frères et sœurs, mes bien-aimés. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. C'est comme un résultat. Hein. On l'Église comme ça, qui campait sous communion fraternelle, qui campait sous la prière, qui campait dans la pratique de la Sainte Seine. On ne parle pas prendre Sainte Seine. 2, 3 mois passés, on ne pas prendre Sainte Seine. Je ne vais pas rendre l'Église à compte. Je ne vais pas demander au compte. Je ne vais pas rendre l'Église à compte. Pour qui on n'a pas prendre Sainte Seine, mais les villes parlent en règle. Et puis, c'est ça. C'est pas l'église ça que mon Dieu voulait. L'église, mon Dieu veut, c'est l'église que tout le monde y a arrangé le pour cette scène. On a arrangé le pour cette scène. Il a arrangé le pour cette scène. Non, on va pas qu'être bagarre là-dedans. Parler ça, l'église a déjà. Arrangé le pour cette scène, on va pas qu'être bagarre là-dedans. Bien comprendre la signification de la Sainte Seine. Bien comprendre la signification de la grâce. Bien comprendre la signification du péché. En plus, fois, on n'a qu'à prendre cette scène, il pas contre, s'il va prendre cette scène, il va comprendre la grâce. En plus, on n'a pas cette scène, parce qu'il va comprendre la grâce tout fait pour cette scène, il va comprendre le péché. Donc, en plus, fois, on n'a qu'on est éligible pour cette scène, il va connaître, il manque enseignement. En plus, fois, on n'a pas éligible pour cette scène, parce que le bagage, il va comprendre. toujours comme ça, hein. Mais en plus, il faut avoir pensé indûment. Je ne sais pas comprendre comment la grâce fonctionnait, comment la grâce opérait. Mais la volonté du Seigneur, c'est que chaque monde qui est chrétien, il prend cette scène. Je pense que chaque fois qu'on va prendre cette scène, la bonne pécheur dans le ciel. On va passer trois dimanches, quatre dimanches, deux dimanches, on va prendre cette scène. Et on va prendre normalement fou ben. C'est-à-dire que l'homme dit, ouais, en général, moi aussi, oui. C'est-à-dire chrétien, bon, ok, chrétien, c'est pas où. Chrétien, hein, pas qu'à penser que c'est normalement fou ben. Si on a quelqu'un qui dit à l'aïe, pas qu'à penser que c'est normalement. Si on a quelqu'un qui fait l'ombre, il parle de l'idée, ça ne parle pas, il parle pas cette scène. Mais qu'on est là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'on reste dans cette situation-là? C'est toute la question. Voyez-vous? Mais là, c'est ça. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous.
Alors voilà pour Acte chapitre 2, versets 41 à 47. Il me reste 10 minutes. Je crois que nous sommes mûrs pour passer au chapitre 3. Et on va lire le chapitre 3. Et puis après quoi, on vous donnera la parole. Mais j'aimerais tellement commencer avec le chapitre 3. On va lire le chapitre 3. Si on a le temps seulement de le lire, c'est tout à fait correct. Et si on le lit seulement, on est correct aussi. On est tout aussi correct. Alors, ouvrez votre Bible à la maison, du confort de votre demeure, de vos demeures respectives. Lisons ensemble Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Pour la prochaine étape. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, Actes chapitre 3. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et ils les regardèrent attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de celui qui était, de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Voilà, gloire à notre Dieu. Le verbe que nous avons ici, hein, nous avons un verbe ici qui est le verbe monter, hein, qui est à l'imparfait en français. Monter suggère l'idée que Pierre et Jean avaient l'habitude d'aller régulièrement au temple. Hein? Donc, dans la langue originale, le temps du verbe que nous avons en français ici, pour monter, qui est à l'imparfait, signifie que
Le fait de monter au temple pour aller adorer le Seigneur, aller prier, était une habitude des saints apôtres. Et première remarque. Deuxième remarque, l'heure de la prière que nous avons ici, c'est-à-dire la 9e heure, dans le système juif, eh bien, c'est 15 heures. Hein? C'est 15 heures. On a parlé de la première heure, de la deuxième heure à d'autres occasions. Et ici, on parle de la troisième heure, de la 9e heure. 9e heure, c'est 15 heures, soit bien 3 heures d'après-midi, suivant le système et juif là, qui avait l'habitude de compter les heures à partir du lever du soleil. Hein? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on verra les 3 heures de prière mentionnées. Hein? Le matin, la 3e heure, et l'après-midi, la 6e heure. Et ça nous donne la première heure, la 3e heure, la 6e heure. Et ici, nous avons la 9e heure pour la 9e heure, la 3e heure, la 6e heure. Donc, 3 moments de prière, 3 temps de prière, selon ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Alors, ils se rendent au temple, les saints apôtres, ils rencontrent un homme boiteux de naissance. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a au chapitre 3 l'un de ces miracles que la Bible dit au verset 43 de chapitre 2. Il faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Et bien, nous sommes en présence d'un de ces miracles-là. Hein? Et cet homme qui est infirme de naissance depuis le sein maternel, eh bien, il est un cas humainement désespéré. Il est affligé parce que les médecins de son époque ne pouvaient rien faire pour lui. Hein? Alors, il avait l'habitude, comme tantôt, il avait l'habitude, le temps de verbe indique qu'il avait l'habitude de mendier. Hein? Il était toujours à cet endroit pour mendier. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Les devantures des églises, des lieux de culte dans certains pays du monde, c'est toujours un endroit stratégique pour les mendiants de s'installer pour mendier. Et la porte du temple, appelée la Belle, c'était un endroit comme aujourd'hui pour demander l'aumône, parce que dès que les gens passent par là, ils vont faire l'aumône, ils vont déposer l'argent dans le temple, ils vont adorer dans le temple. Ceux qui sont sincères ou ceux qui ne sont pas sincères, eh bien, les mendiants de Palestine comprenaient l'important de s'installer dans ce coin pour recevoir et des sous. Et ce n'est pas seulement devant le temple qu'ils s'installaient. Ils s'installaient aussi devant les maisons des riches. Ils s'installaient sur les routes principales. Et en plus de s'installer devant le temple pour s'assurer que là, il y a recevoir un bagage quand même. Mais c'était les meilleurs endroits, les endroits stratégiques pour mendier, pour s'installer, pour mendier. Les foules s'assemblaient au temple chaque jour. Les foules viennent au temple pour adorer Dieu, pour montrer à Dieu leur piété, leur dévouement. Et alors, ils en profitent pour faire de l'aumône, parce qu'en faisant de l'aumône, c'est une autre manière de montrer à Dieu, eh bien, qu'ils étaient dévoués, eh bien, à Dieu, qu'ils étaient comment je dirais, qu'ils étaient des gens pieux envers Dieu. Donc, il n'est pas capable de venir là pour parler à ton bagage dans bol et mendiant. Et le boiteux, frères et sœurs, se trouve dans un endroit où il va faire de l'effet sur les gens qui viennent. Et dans cet endroit, il voyait Pierre et Jean entrer et il leur demande l'aumône. En réponse à leur demande d'aumône, Pierre et Jean, La Bible dit, versets 4 à 6a, Pierre et Jean le fixaient du regard. Ils le fixaient et lui disent, regarde. Et le mendiant les regarde comme il le demande, en espérant recevoir des saints apôtres, Pierre et Jean, quelque chose. C'est ce que le texte dit. Il s'attendait à recevoir de l'argent. C'est du moins ce qu'il demandait. Hein? C'est ça le demandait. Et surprise, les hommes de Dieu lui dirent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Gloire à Dieu. Et nous allons voir que ce qu'ils ont, ils le donnent en lui disant, lève-toi et marche. Donc ici, nous voyons la souveraineté de notre Dieu. Hein? Ce miracle est le résultat, c'est l'effet, c'est le produit de la souveraineté de Dieu. Il y a des centaines d'autres mendiants dans ce coin à Jérusalem. Ils ont besoin de guérison comme lui. Un peu comme quand Jésus est allé à la piscine au bord de la piscine de Bethesda. Il y avait d'autres qui traînaient là, comme celui qui a été guéri. Mais la même chose ici, c'est la même chose ici qui se passe. Plusieurs sont là, mais un seul va retrouver la guérison. Donc, nous reviendrons sur ce passage. Je ne vais pas oublier les 21h. Je ne vais pas oublier que je suis arrivé au verset 4 par là. Nous y reviendrons. Alors voilà, si vous avez vos questions, c'est le temps de les poser. Si vous avez des choses à partager, c'est le temps de le faire avant qu'on puisse remettre l'antenne à notre bien-aimé frère Jacques pour la suite des choses. Laissez-moi simplement éteindre et arrêter, pardon, l'enregistrement à la gloire du Seigneur.